16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, grâce notamment à l'érudition encyclopédique de celui qui, depuis 13 ans, à la tête de Secret d'Histoire, vous fait croire qu'il connaît tous les Louis.
Louis 1er, Louis 2, Louis 3, Louis 4, Louis 5, Louis 6, Louis 7.
Alors que ceux qui le connaissent en privé savent qu'il n'y a qu'un seul Louis qui compte vraiment à ses yeux.
Louis Vuitton.
Bonjour Stéphane Bern, jolie chemise en dessous de votre pull. Encore votre ami Louis.
Ah non, Dans quelles circonstances j'ai prononcé le...
Je sais pas, au monde privé peut-être.
Le mot de Louis Vuitton. Et bonjour cher Mathieu. Non,
vous êtes déstabilisé.
Oui, je suis déstabilisé parce que
quand j'ai touché juste visiblement.
Non, je n'ai rien. J'étais en train de me dire.
C'est vrai, vous n'avez rien.
Absolument rien.
Vous allez recevoir quelques chemises dès demain, mon ami.
Non, je ne veux pas. Surtout,
non, vous ne voulez pas. Non.
Bon, en tout cas. Je vais vous dire la vérité, mon cher Mathieu, je suis ravi de vous retrouver pour 2 heures d'histoire décomplexée autour de 3 personnages qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, ce sont 3 femmes, 3 muses amusantes. Elles inspirent et servent de modèles. Je vous raconte d'abord le destin romancé de la belle Simonetta Vespucci, qui au temps de la Renaissance a fait tourner des têtes, et surtout celle du peintre Botticelli, qui s'en serait inspiré pour plusieurs de ses célèbres tableaux. Puis, autre époque, autre muse, elle s'appelait Adrienne Fidelin, arrivée de Guadeloupe à Paris. Le peintre américain Man Ray a fait d'elle son modèle, mais pas uniquement, plongeant Adi, comme il l'appelait, dans l'univers surréaliste des surréalistes. Quant à vous, Mathieu, vous nous livrerez le portrait à 99% vrai d'une muse plus proche de nous, celle de Serge Gainsbourg.
Et oui, la formidablement attachante Jane Birkin, sa vie est un véritable roman et sans elle, la discographie de Serge Gainsbourg aurait probablement été beaucoup moins riche. Retour sur un des binômes les plus fascinants de l'histoire de la musique française. Eux aussi, Stéphane, ils sont fascinants à leur manière, ils forment un trinôme. Ce sont nos chroniqueurs, des chroniqueurs qui intriguent.
On les dit hermaphrodites, est-ce vrai?
Qui sait? En tout cas, ils sont bizarres, ça pour sûr. Bonjour Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oh, mais vous... Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que moi, je trouve que là, dans la thématique du jour, il y a un petit peu trop de femmes, avec toutes ces muses.
Oui.
Et d'autant que je vous avais déjà parlé d'Hélène de Surgères, la muse de Ronsard. Donc, aujourd'hui, je m'intéresse aux hommes, figurez-vous. Et pour une plongée dans une époque où l'on pratiquait, avant la lettre, le mariage pour tous, à la fois dans l'Empire romain, mais aussi dans l'Église chrétienne primitive. Alors, avec moi, Néron et Héliogabale, pionnier du mariage gay, plongé dans le passé, et vous verrez que notre époque n'a rien inventé du tout en matière de famille.
Gay, Néron.
Oui, Stéphane, Néron était gay. David Castello-Lopez, lui, on ne sait pas quelle est son orientation sexuelle et ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas savoir. Ce qu'on veut connaître avec lui, c'est l'origine des objets qui font notre quotidien, à commencer par un objet, vous auriez pu le faire plus tôt quand même, le téléphone portable.
Le téléphone portable, c'est vrai, alors je ne parle pas vraiment des smartphones, je parle juste des téléphones qu'on peut emporter dans la rue. Tout à fait. Oui, vous avez eu un bebop?
Non, parce que j'étais trop jeune pour l'avoir, mais je voyais 94. Les bandes blanches.
En 94, j'étais trop jeune pour avoir un bebop.
J'ai pas eu de bebop, ça arrive. Mais en tout cas, vous savez, on voyait, ils mettaient sur toutes les...
Oui.
Et on les voit encore, on les voit encore de temps en temps.
Pardon, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc soyez plus précis. Non, je sais ce qu'est le bebop, mais qu'est-ce qu'on voyait?
Ces bandes bleues, vertes,
en fait,
blanches.
Pour utiliser le bebop, il fallait être près d'une borne. Et comment ces bornes étaient signalées par un signalement qui était...
Donc on se rapprochait de la borne, vous envoyez un petit message.
Et vous envoyez encore dans Paris, comme vous pouvez.
Oui, bien sûr.
Ah, ça c'est drôle, ils ne l'ont pas enlevé.
Je vous en montrerai, je vous ferai des photos.
Oh,
faites des photos de bornes de bebop pour Mathieu.
Exactement, voilà. Envoyez-les-nous à Europe 1 au 3921, si tant est qu'on puisse envoyer des photos au 3921, je ne sais pas. Enfin, faites ce que vous voulez.
Les blinis.
Je vous reprends tout de suite, Stéphane. On ne dit pas les blinis, on dit les blinis. Et je vous dirai pourquoi.
Un blino des blinis.
Non, on dit des
c'est
blinis.
C'est le mec qui fait le fin mot de l'histoire qui nous dit.
Et je vous donnerai une recette pour faire vous-même vos blinis. Vous savez, ce petit support à caviar absolument délicieux.
Mais on peut mettre autre chose aussi. Un peu de tarama, un peu de saumon, n'importe.
Voilà. Bien sûr, Stéphane. Enfin, les amis, depuis que ces penchants masochistes ont éclaté au grand jour durant cette émission sur les sévices moyenâgeux, au cours de laquelle il s'est exclamé, je cite, « Oh oui, ça devait être bon de voir quelqu'un subir le supplice de la roue. Je n'ai plus aucun état d'âme à infliger à Stéphane le quiz. » Cette séquence rieuse pour les spectateurs, douloureuse pour le condamné, Rendez-vous aux alentours de 5h-10. Mais tout de suite, partons comme promis à la rencontre d'une ravissante jeune femme qui fit tourner bien des têtes à la cour de Laurent le Magnifique, notamment celle du peintre Botticelli. Stéphane Bern vous raconte notre première muse du jour, Simonetta Vespucci.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a inspiré les grands artistes de la Renaissance. Elle était si belle qu'au XVe siècle, les Florentins l'avaient surnommée la sans pareille. Stéphane Bern n'a pas son pareil pour nous raconter la vie de la muse Simonetta Vespucci.
Sans aucun doute, Mathieu, connaissez-vous la célèbre Vénus sortie des eaux ? La naissance de Vénus, chef-d'œuvre peint par Botticelli vers 1484. Aujourd'hui, au musée des Offices de Florence, en Italie, il en existe des reproductions dans le monde entier. Nue, les cheveux longs et libres, la Vénus se tient debout sur un coquillage au-dessus de la mer. Son corps est harmonieux et son visage frôle la perfection. Elle est si belle qu'on croirait tout droit sortie de l'imagination du peintre. Pourtant, cette Vénus aurait bel et bien existé. Elle s'appelait Simonetta Vespucci. Je précise que les informations dont nous disposons sur cette belle dame sont rares et imprégnées de légendes. Son histoire a certainement été fortement romancée, mais sa vie, aussi courte fut-elle, a aussi tout d'un roman, ou tout du moins d'une nouvelle. Simonetta Cataneo, il s'agit du nom de naissance de Simonetta Vespucci, voit le jour en 1453 dans une puissante famille de Gênes qui se retrouve contrainte à l'exil alors que la petite fille n'a que 5 ans. Suivant ses parents, elle se retrouve dans la ville toscane de Piombino, chez son oncle, un chef de guerre proche de Florence. Comme toute jeune fille bien née de la Renaissance italienne, Simonetta a été éduquée, cultivée et maîtrise l'art de la conversation. Quand ses parents cherchent à la marier, ils comptent bien trouver un fiancé à sa hauteur. C'est Marco Vespucci, issu d'une lignée de riches banquiers proches du pouvoir florentin, qui est l'heureux élu. Inutile de préciser que personne n'a demandé l'avis de Simonetta quant au choix de son futur époux. Simonetta, qui est désormais une Vespucci, a environ 17 ans. Quand elle se marie et arrive à Florence, où règne Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique, le maître de Florence est un vrai prince de la Renaissance, mécène fastueux et épris de culture. Il attire à Florence les plus grands artistes italiens, Sandro Botticelli ou Leonardo da Vinci. Simonetta Vespucci, désormais jeune mariée, s'établit à Florence avec son époux Marco. En février 1469, Simonetta Vespucci fait l'une de ses premières apparitions à l'occasion d'une joute. Lors de ses représentations, les hommes des plus prestigieuses familles florentines se battent à cheval en public. Enfin, quand je dis qu'ils se battent, les échanges sont plutôt courtois, ce qui laisse tout le loisir à Laurent de Médicis et son jeune frère Julien de remarquer la beauté de Simonetta. Mais Simonetta Vespucci doit quitter Florence pour suivre son époux et son beau-père à Scarperia, à 25 km de là où ce dernier vient d'être nommé. Elle ne revient à Florence que 3 ans plus tard et immédiatement, la beauté de la jeune femme attire à nouveau tous les regards. Belle et douce, sa gentillesse frappe ceux qui l'entourent. Écoutez ce que dit d'elle le poète Ange Policien, à qui elle a inspiré de nombreux vers. De sa tête dorée, les cheveux descendent en boucle sur son front, à la fois humble en sa superbe. Lors des bals, les invités s'extasient devant son visage de madone et sa taille fine. Elle est si belle qu'on la compare aux grâces de l'Antiquité. Il n'en faut pas plus pour stimuler l'imagination de Sandro Botticelli, qui immortalise le charme de Simonetta Vespucci. Botticelli, qui s'appelle en réalité Alessandro Filippi, aurait habité dans le même quartier que Simonetta quand elle arrive à Florence la première fois. Botticelli sort alors à peine de l'atelier de l'artiste Fra Filippo Lippi, où il a appris l'orfèvrerie, la gravure et la ciselure pendant plusieurs années. Et les Vespucci sont parmi les premiers à lui passer commande. Botticelli a quelques années de plus que la jeune femme et sans doute la remarque-t-il bien avant qu'elle ne devienne la coqueluche de Florence. Peut-être l'a-t-il aperçu, brève apparition à sa fenêtre, ou recueilli à l'église, ou lisant tout simplement chez elle. On peut supposer que la beauté parfaite de Simonetta Vespucci enflamme l'imagination de l'artiste et qu'il nourrit pour elle dès lors un amour platonique. On imagine Botticelli dessinant et coloriant en esprit sa belle voisine à qui il ose à peine adresser la parole, car figurez-vous que le peintre est extrêmement timide. En 1475, pourtant, se présente enfin l'occasion pour Botticelli de réaliser le portrait de Simonetta Vespucci. Laurent de Médicis organise une fête grandiose dont la jeune femme est la reine. Des farandoles nocturnes et déguisées sont organisées et Laurent de Médicis lui-même a composé les chants de ce fantastique carnaval en l'honneur de la jeune femme. Pendant les joutes, son frère Julien de Médicis, dont l'histoire raconte qu'il est certainement l'amant de Simonetta Vespucci, arbore un étendard sur lequel figure le portrait de la jeune femme peint par Botticelli. Elle y est représentée sous les traits d'une déesse accompagnée de ces mots « La sainte part, la sans pareille » en français, qui est son surnom à Florence. Il est peu probable que Simonetta Vespucci ait posé pour Botticelli, mais on peut imaginer ce que cela aurait donné. Simonetta, vêtue d'une belle robe colorée, reçoit le peintre dans ses appartements. Il lui demande avec déférence de se tourner à gauche, puis à droite pour mieux capter la lumière. Elle obéit, tandis que le peintre esquisse rapidement quelques croquis de son visage. Si cette scène a eu lieu, rien n'est moins sûr, Botticelli espère certainement pouvoir renouveler l'expérience. Hélas, il n'en aura pas l'occasion. Début avril 1476, la jeune femme de 23 ans à peine tombe malade. Laurent de Médicis inquiet s'empresse de lui dépêcher son propre médecin. Il demande aussi qu'on le tienne informé de son état. Une lettre lui parvient. Simonetta est comme vous l'avez laissé. On ne peut guère dire que son état se soit amélioré. Nous restons tous vigilants. Hélas, la jeune femme s'éteint, sans doute de la tuberculose. Tout Florence assiste au cortège funèbre. Les grandes familles, bien sûr, mais aussi peut-être les artistes que la jeune femme a côtoyés. Léonard de Vinci, le Ghirlandaio, Filippo Lippi et Botticelli. Laurent de Médicis décrit la belle endormie à tout jamais. Ceux qui l'avaient connue, hormis leur chagrin, éprouvèrent de l'admiration, en voyant que dans la mort, sa beauté, qui de son vivant avait semblé insurpassable, se trouvait sublimée. Simonetta Vespucci est tout juste enterrée qu'elle devient un mythe, continuant d'inspirer les artistes. Le peintre Piero di Cosimo n'a que 14 ans quand il suit le cortège funèbre, mais il peint des années plus tard un célèbre portrait de la jeune femme, le buste nu et le cou entouré d'un serpent. Sur le tableau conservé au château de Chantilly est écrit « Simonetta Vespucci, la génoise ». Je le précise car c'est important, il s'agit du seul tableau dont nous disposons, désignant officiellement Simonetta Vespucci. Pour les autres, voyez-vous, cela n'est que de la spéculation. Pourtant, on dit que les longs cheveux blonds vénitiens et le teint lumineux de la jolie Simonetta auraient hanté les tableaux de Botticelli quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Peu de temps après la mort tragique de la jeune femme, Botticelli s'attaque à son allégorie « Le printemps », peinte entre 1477 et 1482, dans laquelle elle incarne l'une des trois grâces. Vêtue de voiles légers, elle danse élégamment en compagnie de deux autres. Nombre de figures féminines qu'il peint par la suite auraient les traits de sa muse disparue. Simonetta Vespucci est clos, divine dans la naissance de Vénus en 1485. Innocente, il lui aurait donné les traits de la Vierge à la Grenade en 1487. 15 ans avant de disparaître, le Florentin peindra son dernier nu, la calomnie d'appel, en s'inspirant du souvenir de la belle Florentine. En 1510, quand le peintre s'éteint, on l'enterre à sa demande dans l'église florentine d'Ognissanti, de tous les saints, non loin de sa tombe, la tombe de sa muse, Simonetta Vespucci. Quitte à casser le romantisme de mon récit, je dois toutefois préciser que cette dernière volonté était assez logique, puisque le caveau familial, dit Botticelli, oui, s'y trouvait déjà.
Oui, ça casse un peu le truc.
Europe 1. Historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de cette fascinante Simonetta Vespucci, nous sommes avec l'historien de l'art, Serge Lega. Bonjour Serge.
Bonjour Serge Lega.
Bonjour Mathieu.
Bonjour, vous êtes bonjour, professeur Stéphane. À l'Institut d'études supérieures des arts. Il est compliqué de démêler le mythe de la réalité quand on évoque Simonetta Vespucci. C'est peut-être ça, au fond, Serge, qui la rend aussi fascinante.
Tout à fait, c'est exactement ce que vous avez évoqué. On sait au fond assez peu de choses sur elle dans sa courte vie, mais l'image est une image qui est restée, une image totalement romantique, que l'on a d'ailleurs beaucoup, beaucoup idéalisée en faisant la plus belle femme de son temps. Et puis cette image d'une sorte de météore, puisqu'elle meurt jeune et que tous les gens qui meurent jeunes, évidemment, gardent intacte cette beauté parfaite qui était la leur. Les Grecs anciens disaient que les élus des dieux mouraient jeunes. Eh bien, c'est le cas de Simonetta.
Mais Serge Legas, quand même, une chose dont on est sûr, c'est quand même qu'elle était, sinon la plus belle femme du monde, en tout cas, une femme exceptionnellement belle. Ça, quand même, c'est attesté.
Ah ça, c'est absolument certain, puisque, comme Stéphane l'a évoqué dans le récit, on a d'abord la certitude que Botticelli a été très 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 marqué par elle, qu'elle soit aussi présente dans tous les tableaux, ça reste un débat, mais elle est vraiment une muse de Botticelli. Et puis, on a également parlé de Ange Policien, qui lui consacre ce merveilleux texte, qui s'appelle d'ailleurs les Stanze pour la joute de Julien de Médicis, et elle est vraiment là décrite comme l'idéal de beauté. On est dans un monde aussi néo-platonicien à cette époque, c'est-à-dire la quête de la beauté parfaite, la quête de l'idéal, et elle correspond parfaitement. Donc ça, une chose qui est certaine, c'est sa beauté, et cette beauté tout à fait hors du commun.
Bon, il y a une chose qu'on peut écarter, c'est pas elle qui a inspiré la Joconde, hein, ça on en est...
Ça, je suis désolé, mais vraiment, on a beau faire toutes les suppositions possibles, ça, c'est une chose à laisser de côté. Voilà. Léonard, qui d'abord est plus jeune que Botticelli, restera peut-être dans cet esprit florentin du souvenir de la beauté de Simonetta, mais la Joconde est sans aucun doute Lisa Gherardini, donc on a en plus pratiquement de façon certaine l'identité de la Joconde, et Simonetta ne peut pas être le modèle.
Non, mais en revanche, elle a inspiré... Piero di Cosimo, Botticelli, vous avez vu, en plus, les Botticelli, ça se vend bien, hein, maintenant.
Oui, 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 c'est maintenant le portrait qui vient d'être vendu, c'est le second tableau ancien le plus cher du monde, après le Léonard de Vinci, le Salvator Mundi. Donc, effectivement, Botticelli a une cote exceptionnelle. Il faut dire qu'il y a tellement peu de tableaux de Botticelli sur le marché que la rareté explique aussi plus la qualité du tableau. Mais c'est vrai que les artistes leur ont vraiment fait de Simonetta un idéal de beauté. Et on peut penser que Botticelli, effectivement, dans des tableaux qui sont quand même des tableaux peints des années après la mort de Simonetta, se soit inspiré de cette image, j'allais dire, récurrente de la beauté florentine qui était celle de Simonetta. Donc le lien se crée, et c'est vrai que c'est tout à fait la thématique de votre émission. D'ailleurs, c'est vraiment le thème de la muse au
absolument.
Sens littéral du terme.
Oui. Alors on va continuer à parler de nos amusantes muses, et de Simonetta Vespucci en particulier, avec notre invité Serge Legas sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
À la découverte cet après-midi des amusantes muses de l'histoire. C'est notre thème avec Stéphane Bern. On parle de Simonetta Vespucci qui a inspiré nombre de peintres de la Renaissance italienne, notamment Botticelli. On en parle avec un spécialiste de l'art, Serge Legas. Vous êtes avec nous. Simonetta Vespucci était une muse, mais elle ne s'est pas amusée avec Botticelli. On l'a vu, il est pourtant pas rare que la muse devienne compagne. Entre eux, il ne s'est rien passé de sexuel, en tout cas. Serge, vous pouvez nous confirmer?
Alors, soyons clairs. Déjà, la sexualité de Botticelli n'est pas très connue, mais il y a de fortes possibilités que Botticelli soit homosexuel. Donc, évidemment, on est dans l'idée de l'amour platonique. C'est l'image d'un amour intellectuel qui relierait Botticelli et Simonetta. Ce qui est d'ailleurs un peu convaincant à un certain niveau, c'est que comme Simonetta est elle, sans aucun doute, la maîtresse de Julien de Médicis, Julien de Médicis était connu pour être très jaloux. Donc si Botticelli avait pu approcher Simonetta, on pense que Julien, qui est plutôt celui qui va créer des liens avec Botticelli et Simonetta, se serait méfié de ce peintre,
mais
ce qui n'est pas le cas.
On parle beaucoup de Marco Vespucci.
Oui, donc il s'en foutait, lui, il laissait faire,
ça le gênait pas que madame, elle soit avec Julien de Médicis.
Mais Stéphane, vous en avez parlé, c'est typiquement ces mariages arrangés d'une époque, et c'est vrai que ces mariages sont basés sur des arrangements qui sont plutôt des arrangements soit financiers, soit d'élévation sociale, puisque les Vespucci, c'est une très bonne famille, c'est le moins qu'on puisse dire, proche des Médicis à Florence. Donc Marco a, j'allais dire, une sorte de latitude tout à fait particulière pour la vie de sa femme. Donc là-dessus, on peut penser, alors certains ont envisagé que l'amour avec Julien soit aussi platonique. Ça, je pense que c'est une fiction. Avec Botticelli, c'est tout à fait certain. Avec Julien, sûrement pas.
Simonetta, elle a inspiré évidemment les peintres, mais elle a inspiré aussi des poètes.
Alors, je pense que ce qui domine, c'est ça. C'est que c'est vraiment une muse à tous les sens du terme. Alors, on l'a évoqué aussi bien vous que moi, Stéphane, plusieurs fois. Le plus beau texte contemporain, c'est Ange Policien. C'est vraiment celui qui écrit un merveilleux texte sur elle de son vivant. Parce que beaucoup de textes, comme les tableaux, sont des tableaux posthumes. Et je vous rappelle juste une chose. Dans les stanze pour la joute de Julian Médicis, l'intrigue est la suivante. C'est un héros qui s'appelle Julio, qui est un jeune chasseur qui est complètement opposé à l'idée de l'amour, et Cupidon l'oriente vers une très belle nymphe qui s'appelle Simonetta. Bon, clair.
Ça, c'est clair.
Julio, Simonetta, c'est à peine codé.
À quelques jours de la Saint-Valentin, moi, je prends...
Voilà. Et pour ce qui est des poèmes, alors, il y aura des poèmes posthumes. Par exemple, Laurent le Magnifique écrira 4 poèmes consacrés à Simonetta après sa mort, puisque Laurent était aussi un grand érudit et un poète. On a beaucoup de textes de Laurent le Magnifique. On a également... Bernardo Pulci, qui est un humaniste de la cour des Médicis, qui écrira des poèmes sur elle. Mais le vrai texte contemporain, je dirais qu'au fond, si on ne devait retenir que 2 noms qui sont marqués par Simonetta, en peinture, c'est Botticelli, et en poésie, c'est Ange Policien.
Serge Leguay, on a la chance d'avoir avec vous un historien de l'art. Et je pose une question peut-être qui dépasse un peu notre sujet du jour, mais elle est souvent représentée nue, Simonetta Vespucci. Comment s'était vécu à l'époque ces tableaux de nu? Parce que c'était quand même une société effectivement un peu fermée sur ces idées-là, voire pudibonde. Et ces tableaux nus ne choquaient pas à l'époque? C'était la norme? Ça posait pas de problème? Ou au contraire, c'était destiné à la choquer un petit peu?
Eh bien, Mathieu, vous êtes complètement dans l'idée justement de ce qu'est une muse. D'abord, beaucoup de choses. Les tableaux dont on a parlé, que Stéphane a évoqué, le printemps de Botticelli, la naissance de Vénus, la calomnie d'Appel, sont des tableaux qui sont peints pratiquement 10 ans après la mort de Simonetta. Donc déjà, ce sont des tableaux où évidemment Simonetta n'a pas posé. Mmh. Là, il n'est pas pensable qu'une jeune femme de la très bonne société pose nue devant un artiste. En plus, vous avez une chose, c'est que tous ces portraits, ou ces images plus exactement, où elle est représentée nue, sont des tableaux mythologiques ou allégoriques. Le Pierrot di Cosimo, elle est soit en Cléopâtre, soit en Proserpine. Les autres, le printemps, etc. Elle représente à chaque fois un personnage qui est un personnage lié à ce qu'on appelle la peinture d'histoire. Oui. Donc déjà, on a le paravent, qui est le paravent intellectuel, et en plus, ce sont des tableaux qui sont des tableaux faits de souvenirs par rapport à l'image. Donc, ce qu'on peut pas envisager, c'est que la belle Simonetta, membre d'une grande famille, pose nue devant les artistes. Ça, sûrement pas.
Mais alors, physiquement, on imagine qu'elle était parfaite, puisque Ange Policien décrit cette beauté incroyable. Mais est-ce qu'on a des infos sur sa beauté d'âme, sur son caractère?
Alors, j'allais vous dire, là aussi, on n'en sait strictement rien, soyons francs, parce que déjà, sa beauté, beaucoup de tableaux sont des suppositions. Et puis, pour ce qui est du caractère, alors ça, c'est, je reviens à cette image néoplatonicienne. L'idée néoplatonicienne, c'est qu'un beau corps doit être le réceptacle d'une belle âme et d'un bel esprit. L'idée de la vraie beauté, au sens de l'époque, c'est la beauté parfaite, c'est la beauté intérieure et la beauté extérieure. Si une âme noire est dans un beau corps, c'est la preuve que le mal existe. Pour les chrétiens, c'est la preuve que le diable existe. Donc Simonetta, qui est considérée comme la perfection, doit forcément être un bel esprit et un beau corps.
Et Serge, est-ce qu'on se souviendrait, on parlerait encore, on ferait une émission aujourd'hui autour de Simonetta, si elle n'était pas morte si précocement à 23 ans seulement? Est-ce que ça a contribué à sa légende?
Ah, moi, je suis absolument persuadé de ça, et je vais prendre des deux exemples qui ont strictement rien à voir, mais est-ce qu'on envisage Marilyn Monroe comme une vieille dame, et est-ce qu'on envisage James Dean à moitié chauve et avec un ventre proéminent? L'image de James Dean ou de Marilyn sont aussi des images iconiques parce qu'ils sont morts extrêmement jeunes et dans encore cette beauté qui était la leur. Et Simonetta, mourant effectivement à cet âge très précoce, qui est 23 ans, devient bien sûr le mythe parfait. C'est l'image romantique. En plus, elle est dans l'idée même d'une beauté qui ne sera jamais flétrie. Donc, c'est la beauté parfaite et une beauté qui restera idéale jusqu'à l'éternité.
Je suis pas complotiste, Serge Leguay, mais tout de même, elle est morte un 26 avril à 23 ans. Et comme par hasard, Julien de Médicis est mort assassiné un 26 avril comme elle. Il y a quand même une coïncidence là, non?
Ah oui. Ah ça, moi je pense que de tout, c'est peut-être la part romantique dont on peut être le plus certain d'abord, puisque ça, les dates, on en est sûr, et qui correspond admirablement à cette notion aussi. En plus, c'est quand même extraordinaire, ce couple mythique, parce que retenons aussi une chose, Laurent le Magnifique, le symbole de la Renaissance, n'était pas un bel homme. Hein. Les portraits véritables de Laurent, il est pas du tout séduisant. Par contre, son frère Julien était très beau. Alors imaginez le couple, Julien de Médicis, un sublime jeune homme, amant de la sublime Simonetta, et ils meurent tous les deux un 26 avril, elle a 23 ans et lui a 24 ans. Si c'est pas une image romantique, je sais pas ce que c'est.
Dommage qu'ils se soient pas reproduits.
Ils sont pas reproduits, ils ont pas fait d'enfants.
Et donc. Donc là,
et bien,
en
si,
plus,
et
voilà,
leur
ça
descendant
reste...
est là, non. Mathieu Noël.
Sous un masque, ça peut passer.
En tout cas, c'est passionnant. Merci Serge Legat, comme toujours. Merci aussi au professeur Georges Lomné, traducteur de l'ouvrage italien Le Monde de la belle Simonetta, qui nous a permis, évidemment, de raconter ce récit.
Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une histoire qui a fait jaser dans l'Antiquité, hein.
Oui, en effet, mais alors surtout, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que il ne fallait pas avoir peur d'avoir une vie de famille compliquée, parce que la vie de famille de Néron, elle a déjà été évoquée par vous-même, Stéphane, oui, dans notre émission, et donc nos auditeurs, sans doute, ont retenu que Néron a eu 3 épouses successives. Alors déjà, voilà, Octavie, Poppée, Messaline, donc 3 femmes, mais il va avoir également 3 maris. Donc, de là, de se compliquer la vie.
Bon. Je ne savais même pas qu'il en avait eu un.
Ah ben si, il en a eu 3. Alors, vous savez qu'il s'est débarrassé de sa première femme, qui était aussi sa demi-sœur. Elle s'appelait Octavie. Après Octavie, il épouse sa maîtresse, Poppée. En cadeau de mariage, il lui offre la tête d'Octavie. C'est quand même une attention délicate pour sa nouvelle épousée. Mais en 65, dans un mouvement de colère, comme Néron en a de temps en temps, eh ben il tue aussi Poppée en la rouant de coups de pied dans le ventre, alors qu'elle est enceinte. Bon.
C'est chic.
C'est très chic, c'est un événement que certains historiens contemporains contestent, hein, je m'empresse de le préciser, mais enfin, à ce stade, disons qu'il a déjà tué ses 2 premières femmes. Et donc la troisième arrive, Messaline, en 66, mais il s'en détourne rapidement, parce que, voyez-vous, finalement, Néron, derrière, c'est le côté brut, et bien, ben, palpite un petit cœur sentimental, et il tombe amoureux d'un certain Sporus. Alors pourquoi Sporus? Parce que ce garçon d'une très grande beauté ressemble à Poppée. Vous voyez comme il est tendre finalement. Il a tué Poppée à coup de pied dans le ventre, mais là il est ému, et en voyant Sporus qui ressemble à Poppée, bon ben il se dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait, pourtant j'aimais bien Poppée. Et pour que la ressemblance soit plus grande encore, eh ben il fait castrer Sporus.
Oh non.
Hein. Bah oui, c'est comme ça, c'est simple.
Quoi,
hein. Ben elle ressemble vraiment à une femme. Donc il la fait castrer. Sporus, il l'épouse au cours d'un voyage en Grèce, et puis quand il rentre à Rome, il donne des fêtes grandioses pour célébrer ce mariage, et dès lors, il s'affiche avec Sporus, vêtu des atours réservés aux impératrices. Et désormais, tout le monde à Rome doit s'adresser à Sporus en lui disant « Madame, impératrice ou maîtresse ».
Oui, mais Sporus n'était pas marié à Néron en tant qu'homme, mais en tant que femme.
Ah ben, en tant que femme, enfin en tant qu'ancien homme castré au passage dans la bataille.
Il n'y avait pas de barbe au menton, hein.
Oui, alors là, évidemment, puis alors une fois qu'on vous a fait quick, comme disaient les castrats de la chapelle Sixtine, il ne se passe plus grand-chose. Alors, Sporus, de toute façon, n'est pas le seul homme avec lequel Néron se livrera à une parodie de mariage, puisque toujours d'après Suétone et Tacite, il aurait eu 2 autres maris nommés Doryphore et Pythagoras. On ne rit pas. Mais Pythagoras jouait auprès de lui le rôle de mari, là où Sporus était son épouse. Hein. Comme ça, là, on a toute la gamme complète de
Il a tout vécu, quoi.
Et il a tout vécu. Alors, vrai ou faux, bon, ça figure dans les écrits de Suétone et Dion Cassius, où il est largement question des diverses perversions sexuelles de Néron. Vous savez, il est accusé en vrac d'inceste avec sa mère, de viol d'une vestale. Enfin, on ne prête qu'aux riches. Mais en tout cas, Néron devait beaucoup tenir à Sporus, parce que c'est à lui qu'il fait appel pour les lamentations rituelles avant de se suicider. Donc ça, c'est quand même la marque d'une affection particulière. Et Sporus, surtout, devait être d'une très, très grande beauté, puisqu'après la mort de Néron, il se retrouve dans le lit du préfet Nymphidius, puis à la mort de Nymphidius, il devient l'amant de l'empereur Othon. Donc voyez, Néron, Nymphidius, Othon, tous ont été amoureux de Sporus. Donc Sporus devait vraiment être absolument irrésistible. Et Sporus avait offert à Néron...
Il ne devait pas prendre beaucoup de plaisir.
Ah bah lui, non, bah c'était pas la question. Hein. Quand vous êtes dans le lit d'un empereur, c'est pas vous qui êtes censé y obtenir les satisfactions divines qui en sont attendues. Vous êtes là pour comme instrument du plaisir de celui que vous servez, naturellement. En tout cas, Sporus avait offert à Néron...
Tout ça est très naturel, Clémentine. C'est ça qui est vraiment fascinant avec vous. On est vraiment transportés dans le temps.
Elle nous a décrit quand même des violences conjugales, d'une rare violence.
Non mais écoutez, je vous entraîne dans une époque. C'est comme si on parlait des admirables avec César et Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils ont des esclaves sexuels. Et ben, c'est comme ça. Et je crois que c'est Tibère qui avait ses petits poissons dans sa piscine. Bon, on n'était pas là pour savoir si celui qui était l'instrument de son propre plaisir en trouvait aussi. Ça n'était pas la question, ça c'est sûr. En tout cas, Sporus, il a servi à tous les empereurs suivants, si je puis me permettre. Et Vitellius voulait le livrer au gladiateur pour lui faire interpréter dans l'arène le rôle de Proserpine, c'est-à-dire cette femme qui est raptée par les dieux. Et Sporus s'est suicidé pour éviter cette humiliation. Mais il n'avait probablement pas 20 ans, Sporus, à ce moment-là. Et à sa suite, un autre empereur romain va se marier également avec un homme, c'est Héliogabale. Il épouse d'abord un bel esclave blond et puis un athlète nommé Zoticus, figurez-vous. Et ça ne s'arrête pas là, parce que vous voyez, on a toujours l'impression que notre époque a tout inventé, mais dans le christianisme primitif aussi, il y avait des relations homosexuelles autorisées. On a trouvé au monastère de Sainte-Catherine dans le mont Sinaï une icône qui représente deux saints en robe. Il s'agit de Serge et Bacchus, deux soldats romains morts en martyr en 303. Et entre les deux, il y a le traditionnel pronobus romain, c'est-à-dire le témoin de mariage, qui est représenté sous les traits de Jésus. Donc il y a un historien américain et militant LGBT qui a interprété cette relation comme étant ce qu'on appelle une adelphopoia, c'est-à-dire une sorte de mariage homosexuel, donc une preuve que l'Église orthodoxe n'était pas toujours hostile aux relations et mariages homosexuels. Et la preuve qu'il donne, cet historien, c'est que les deux auréoles, retenez ça, les deux auréoles qui couronnent ces deux hommes sont entrelacées, non divisées, et que ça indique l'amour physique. Bon, écoutez, vrai ou pas, en tout cas, cette icône des saints Serge et Bacchus, elle est devenue un symbole très populaire dans la communauté chrétienne LGBT, et tout ça pour dire, en conclusion, que l'argument de modernité concernant la famille romaine, la famille actuelle, pardon, ça me fait bien rigoler, allez dire ça à Néron, Sporus, Héliogabale et Zoticus, et Serge et Bacchus, et ils vous enverront vous faire cuire un œuf.
Chez les Grecs. Merci beaucoup, Clémentine.
Merci Clémentine,
incroyable.
Merci beaucoup, vous restez avec nous évidemment. Pour qui sait s'y prendre, de là où jaillit la souffrance, jaillit aussi le plaisir, écrivait Sade dans Justine ou Les Malheurs de la Vertu. On espère pour Stéphane qu'il sait s'y prendre, car souffrance, il y aura, le quiz arrive.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
C'est un combat rigolo, mais je le concède, relativement déséquilibré, que nous vous proposons chaque après-midi au moment du quiz. Le problème, c'est qu'un des deux concurrents, Clémentine Portier-Kaltenbach, a fait des études d'histoire, alors que Stéphane, lui, a préféré,
traîner dans les bordels et les tripots.
Voilà, du coup, forcément, ce n'est pas facile pour lui. Souhaitons-lui néanmoins bonne chance.
Ça me donne des circonstances atténuantes.
C'est vrai. Jouons à Bernd Tobiel.
Vous savez comment a fini le conte de Horm, Stéphane, hein?
Pardon?
Roué en place. Vous avez sorti cette phrase de ma chronique sur le conte de Horm qui a fini roué sur en place publique. Hein.
Oui, mais vous savez que ça l'excite. Ne lui parlez pas trop de ça. Question numéro 1 pour vous, Stéphane Bern. 22 novembre 1911, à l'époque, les journalistes avaient le courage de leurs opinions. Gustave Théry et Pierre Mortier se battent en duel à l'épée au Vélodrome du Parc des Princes parce que l'un des deux avait dit que le boxeur Georges Carpentier avait triché. Vrai ou faux ?
En quelle année ?
1911.
Ils se sont battus parce qu'il y en a...
Parce que c'est des journalistes, et l'un des deux journalistes avait accusé le boxeur Georges Carpentier d'avoir triché dans un combat. Ils se sont provoqués en duel pour...
C'est plausible, allez, disons oui.
Vous avez... perdu.
Première question, premier piège.
Oui,
ils se sont battus en duel à l'épée, mais à propos de Marie Curie. Cette dernière était veuve depuis peu, et elle a eu une liaison avec un autre physicien. À l'époque, soit on défendait Marie Curie, exactement, en disant qu'elle faisait ce qu'elle voulait de sa vie privée, soit on en disait pique-pendre. Il y a eu plusieurs duels à ce propos entre des journalistes. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Avant de mourir, James Dean avait enregistré un spot de pub pour la sécurité routière. Vrai ou faux?
On est une sorcière dans l'émission maintenant.
Est-ce possible? Lui qui n'aimait que conduire des voitures très rapides et en même temps, l'édification par l'exemple dans la mentalité américaine, c'est très important. Je dirais oui, c'est possible. C'est possible, ça serait une triste ironie du sort, mais oui, pourquoi pas.
Vous avez gagné!
Vous avez gagné, Clémentine. Le mythique acteur mort à 24 ans au volant de sa Porsche 550 Spyder, il a enregistré ce spot publicitaire. Dans le spot, il déclare « Soyez prudent sur la route, la vie que vous sauverez sera peut-être la mienne. »
Take it easy driving, the life you might save might be mine.
Et oui, il rigole derrière en rire funeste quand on sait ce qui s'est passé après sur la route. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, reprenez-vous. Si allez au Bois de Boulogne, Stéphane. Ah, ça y est, c'est là, on a le Stéphane. Là, je vous dis, on a le Stéphane mauvais perdant. Il bougonne avant même la question. Parce qu'il n'a pas eu bon à la première réponse. Oui. On dirait mon fils quand on joue au Trivial Poursuite. Et une mauvaise réponse, ensuite il ne veut plus jouer. Stéphane, si vous allez au Bois de Boulogne.
Oui.
Vous pouvez peut-être en profiter pour aller au jardin d'acclimatation. Aujourd'hui, c'est un bel endroit. Mais à la fin du 19e siècle, on y a exhibé des Inuits comme authentiques bêtes de foire. Vrai ou faux?
C'est vrai.
C'est vrai?
Oui.
Vous avez gagné!
Vous avez gagné, Stéphane! Terrible histoire que celle de Abraham Ulrikab. Il a suivi un Norvégien avec des amis et sa famille, croyant faire fortune. En plus d'être exhibés dans différents zoos d'Europe, ils vont tous rapidement périr de la variole. L'homme qui les avait conduits avait oublié de les vacciner. Vraiment une belle histoire. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Vous êtes à égalité, alors attention. Le premier chewing-gum de l'histoire a été mâché il y a 5700 ans. Vrai ou faux?
Oui, je pense que c'est vrai. Que vous savez, c'est comme la saponaire, plante qu'on utilisait pendant la guerre pour se savonner. La lentisque qu'on utilisait pour se brosser les dents. Je pense que peut-être la gomme de caroube, il y a certainement une gomme aux vertus un petit peu élastiques, ou peut-être mâcheton de l'EVA. Je le crois volontiers. Je réponds oui.
Clémentine, je vous repose la question pour être bien précis. Le premier chewing-gum de l'histoire a été mâché il y a 5700 ans.
Oui, alors ça ne s'appelait pas un chewing-gum.
Vrai ou
faux? Ça s'appelait pas chewing-gum. Vous croyez que c'est ça le piège, Stéphane?
Ah oui, je pense.
Ouais.
Là, vous allez tomber à piège.
Bon, ça ne s'appelait pas un chewing-gum. Donc, très bien. Alors, je réponds non.
Vous avez perdu.
Oh ben alors, Clémentine, vous avez perdu, c'est dommage, alors que dans un premier temps, vous aviez donné la bonne réponse. Un chewing-gum préhistorique a été retrouvé sur une île au sud du Danemark, dans un endroit où...
Mais vous êtes infâme, Mathieu.
Oui, je dois dire que là, pour accéder à la question 5,
j'ai dû ruser.
Alors, figurez-vous, ce chewing-gum préhistorique a été retrouvé dans une île au sud du Danemark, dans un endroit où la boue préserve particulièrement bien les restes organiques. Le chewing-gum était une pâte noirâtre obtenue en chauffant l'écorce de bouleau, un arbre qui a des vertus antiseptiques idéales pour soulager par exemple un mal de dents. L'ADN a montré que la pâte a bien été mâchée par une femme qui avait vraisemblablement mangé juste avant du canard et des noisettes. C'est vous dire si c'est précis.
Eh bien. Non mais là vous m'avez délibérément induite en erreur, Mathieu. C'était pour qu'on fasse la question finale.
C'est pour qu'on fasse la question finale qui n'est pas piquée des hannetons. Question numéro 5 pour vous deux. Histoire du cinéma.
J'y connais rien.
Quel comédien ou comédienne, écoutez bien la question, la formulation de la question. Quel comédien ou comédienne n'a jamais tourné dans un film érotique? 4 propositions. Fabrice Luchini, Charlotte de Turckheim, Michel Leeb, aucun des trois.
Aucun des trois.
Bonne réponse de Clémentine Fortier-Kaltenbach qui a été plus rapide. Aucun des trois. Luchini a joué dans Emmanuel 4. Charlotte de Turckheim a joué à 20 ans dans Les Dépravés du plaisir. Ça devait être chers auditeurs, si jamais vous avez l'enregistrement, j'aimerais bien voir Charlotte dans Les Dépravés du plaisir. Quant à Michel Leeb, pour payer ses études à 25 ans, il a joué, tenez-vous bien, dans Godfinger. Certaines chattes n'aiment pas le mou. Et ça, je dois dire que dans la hiérarchie des titres érotique, il est assez... Certaines chattes n'aiment pas le mot.
Oui, alors c'est vous savez, ça n'est jamais qu'un mot latin, c'est gaude mii, c'est-à-dire rends-moi joyeuse.
Ah oui, c'est vrai
Oui, c'est un mot latin, le mot god miche, ça vient de là, c'est gaude mii, réjouis-moi.
Réjouis-moi, c'est joliment dit. Bravo en tout cas Clémentine.
On apprend, vous voyez des choses.
Vous remportez le quiz brillamment.
Oh, pas brillamment, c'est déjà.
Oh, bah dis donc, mauvais joueur.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Chaque après-midi, on donne rendez-vous à trois personnages de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser mais qu'on réunit car ils avaient un point en commun. Aujourd'hui, Mathieu, ce sont trois muses amusantes.
Trois muses très amusantes, Stéphane. Un sujet que vous connaissez bien, puisque comme tous les grands artistes, vous-même, vous aimez vous entourer de muses. Rien que tout à l'heure, je vous entendais murmurer des trucs à Clémentine dans un recoin près de la machine à café.
Ici, nous serons tranquilles.
Après Simonetta Vespucci, la muse de Botticelli, de qui allez-vous nous parler, Stéphane, dans cette deuxième heure?
De celle qui fut la muse de Picasso et l'amante de Man Ray. Son nom, Adrienne Fidelin. Sa vie, eh ben, c'est un roman. Quant à vous, Mathieu?
Quant à moi, Stéphane.
Vous nous brosserez le portrait de la seule de nos muses du jour qui sera en mesure d'écouter votre portrait.
Oh oui, Stéphane.
Je suis venu te dire
elle
que je m'en...
L'inoubliable muse de Serge Gainsbourg. Je vous raconte le destin de Jane Birkin que je sens. Vous avez une tendresse particulière.
Ah, j'adore. Non, honnêtement, j'aime beaucoup Jane, vraiment.
Eh bien, j'espère que mon portrait lui plaira.
Il me plaira, facile.
Sinon, ah oui, sinon...
Sinon, je la défends. Je défendrai Jane, envers et contre tout. Alors, nous avons des témoins. Ils sont là, toujours avec nous. Eh bien, David Castello-Lopez qui remonte aux origines du téléphone portable.
Tout
ça vient, qui a créé ça.
Et non pas du bebop, parce que ça, c'est une autre histoire, Stéphane,
oui,
que vous nous racontez.
C'est pas vraiment un téléphone portable.
C'est techniquement un téléphone portable. Il n'était pas portable très loin, au-delà de la borne où on pouvait l'utiliser. Quoi. Voilà.
Et puis après, on bouffera des blinis. Des blinis. Avec vous, Olivier Pouls.
Oui, ben, je vous raconterai l'histoire de cette recette. Je vous en donnerai une recette d'ailleurs très très facile à réaliser. Puis ben, évidemment, comme d'habitude, je vous dirai d'où ça vient.
Et pourquoi se fatiguer à faire soi-même le blini alors que comme disait Stéphane, on a un magasin près de chez Stéphane, Délicatessen, où les blinis
sont
déjà.
Ils sont faits maison.
Oui.
Ils les font eux-mêmes.
Pourquoi 16 euros pièce?
Vous pouvez appliquer ça à tout dans ce cas-là. Pourquoi se faire manger chez soi alors qu'il y a des restaurants qui font ça?
Oui,
mais ça, c'est un peu la théorie de Mathieu Noël, voyez-vous.
Ils ont fermé les restaurants.
Oui, mais le restaurant vient à lui.
Ça fait belle lurette qu'on n'ait pas le restaurant. Ça fait belle lurette. D'où vient cette expression, Stéphane?
Eh bien justement, je vous le dirai, c'est le mot de la fin.
Donc un peu de suspense, nous le découvrons tout à l'heure. Et tout de suite, découvrons notre deuxième muse du jour, celle de Picasso et Man Ray. Stéphane Bern vous raconte Adrienne Fidelin, dite Adi.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Dans les années 30, elle était la muse et la compagne du célèbre photographe américain Man Ray, amie du poète Paul Éluard, modèle pour Pablo Picasso. Elle fut l'un des plus lumineux visages du surréalisme. Stéphane Bern nous raconte Adi Fidelin.
Nous sommes un soir de 1937 à un bal masqué. L'ambiance est joyeuse, le champagne coule à flot comme chez vous. Le gratin parisien est là, vêtu d'accoutrements exotiques, provoquant et chatoyant. Parmi les invités, il y a le célèbre photographe Man Ray. Déguisé en gardien de harem, il porte un turban, un pantalon bouffant et des babouches marocaines. À ses côtés se tient sa muse, sa compagne. On ne peut que la remarquer. Elle est très belle et l'une des seules invitées noires. Mais surtout, elle porte pour seul vêtement un pagne très court qui dévoile ses jambes et laisse ses seins nus. Cette jeune femme, c'est Adrienne Fidelin, surnommée Adi par Man Ray et ses amis surréalistes. Revenons aux origines, voulez-vous? Adrienne Fidelin est née le 4 mars 1915 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Alors qu'elle n'a que 13 ans, sa mère meurt tragiquement lors d'un cyclone. Le père d'Adrienne, miné par le chagrin, suit son épouse dans la tombe peu de temps après. C'est triste, hein.
Oui, ça commence mal, votre histoire.
Oui, à 15 ans, Adrienne Fidelin se retrouve orpheline et doit quitter la Guadeloupe. Accompagnée de son petit frère et de ses deux sœurs, elle est accueillie chez leur grande sœur dans un bel appartement de la région parisienne. Très vite, la jeune fille se découvre une véritable passion pour la danse. Elle veut en faire son métier au grand désespoir de ses proches qui essayent de la raisonner. Danseuse, ce n'est pas un métier. Ah, si tes parents te voyaient. Mais le besoin de liberté est plus fort. Louant une minuscule chambre de bonne dans le 15e arrondissement de Paris, Adrienne Fidelin intègre une troupe de danse. L'exotisme est alors à la mode. Dans ses spectacles, la jeune femme danse la biguine martiniquaise ou la rumba cubaine. Elle imite aussi les performances de Joséphine Baker, devenue célèbre grâce à la Revue Nègre. Adrienne fume, boit de l'alcool, fréquente le bal Blomet, un cabaret où les artistes se bousculent. C'est là qu'Adrienne Fidelin rencontre Man Ray, dont la réputation de photographe et de cinéaste surréaliste est déjà bien établie. À cette époque, Adrienne a vaguement entendu parler des surréalistes. Vous savez, ces artistes et intellectuels révolutionnaires qui fustigent la morale bourgeoise et veulent casser les codes. Man Ray lui demande de venir poser à son atelier au 40 rue d'Enfer Rochereau. Il faut imaginer la scène. Man Ray, les manches retroussées jusqu'au coude, manipulant des lampes, préparant son appareil, il demande à Adrienne d'enfiler un costume traditionnel guadeloupéen, le doudou, composé d'un jupon blanc, d'une grande jupe et un caraco de dentelle. Il a 46 ans, elle n'en a pas tout à fait 20. Toujours est-il qu'entre l'artiste et son modèle, de tendres sentiments apparaissent. Ils emménagent ensemble dans l'appartement de Man Ray. Le couple mène une vie de bohème, entouré de sculptures, peintures, œuvres d'art dans tous les coins. Ils sortent beaucoup, fréquentent les bals costumés, les restaurants ou les galeries d'art, en compagnie d'autres artistes surréalistes. À l'été 1936, Pablo Picasso, en couple alors avec Dora Maar, leur propose de partir en vacances dans une pension de famille de Mougins, dans les Alpes-Maritimes. Sont aussi conviés Paul Éluard et son épouse Nuche, dont Adrienne est très proche. À Mougins, on se baigne, on fait du bateau, on profite de la fraîcheur du soir pour discuter peinture ou sculpture. Man Ray filme le village, ses amis et leurs escapades à la plage. Il prend aussi des photos qui ne sont pas tout à fait des photos de vacances traditionnelles.
Qu'est-ce que vous insinuez par là, Stéphane ?
Adi Fidelin et Nuche Éluard posent nus dans les bras l'une de l'autre. On peut imaginer Man Ray les dirigeant. Rapprochez vos lèvres, embrassez-vous, les deux femmes rient. S'embrassent, tandis que leurs compagnons, Man Ray et Paul Éluard, les rejoignent. Adi est aux petits soins pour son Pygmalion. Elle fait tout, écrit Man Ray dans une lettre à un ami. Cirer mes chaussures, apporter mon petit déjeuner, peindre l'arrière-plan de mes grandes toiles. Mais cela ne l'empêche pas de mener sa vie. Adrienne continue de danser et pose pour d'autres artistes. On la reconnaît aussi dans un tableau de Picasso, Femme assise sur fond jaune et rose 2. Elle fait aussi un peu de cinéma, plutôt de la figuration, dirons-nous. Adrienne accompagne Man Ray dans les grandes maisons de couture, où il est chargé de photographier les nouvelles collections pour les revues françaises et américaines. En 1937, l'artiste est contacté par le magazine Harper's Bazaar pour une série de photos inspirées des coiffes congolaises. C'est un comble. Seuls des mannequins blancs ont été retenus pour la séance photo. Man Ray impose Adrienne, revêtue d'un collier de dents de tigre, d'un bracelet en ivoire et d'une coiffure du Congo belge, et adoptant une pose séductrice, la jeune femme devient l'un des premiers modèles noirs à figurer dans un magazine de mode. Mais le conte de fées ne dure pas. L'avenir est assombri par la montée du nazisme et de l'antisémitisme. Bientôt, le couperet tombe, la Seconde Guerre mondiale est déclarée et les nazis envahissent la France. Man Ray, qui est juif, n'a guère le choix. Il doit rentrer aux États-Unis. Adi refuse de le suivre. Elle ne peut se résigner à abandonner sa famille. Le couple se sépare. Ils s'écrivent de nombreuses lettres, mais en pleine guerre, les courriers s'égarent ou sont souvent retournés à l'expéditeur, ce qui contribue à la dissolution de leur relation. On sait peu de choses sur la vie d'Adrienne sous l'occupation, sinon qu'elle se dévoue à la sauvegarde des œuvres de Man Ray. Après la guerre, elle continue de danser, mais une série d'interventions chirurgicales lui laisse de disgracieuses cicatrices compromettant sa carrière de modèle. Adi et Man Ray continuent d'entretenir une amitié par correspondance, mais elle épouse un autre homme, André Haar, et quitte Paris pour emménager du côté d'Albi. Le couple vit chichement. Pour faire bouillir la marmite, Adrienne vend des photos que Man Ray lui a laissées en souvenir de leurs belles années. Au loin et absente de la scène artistique, Adi continue pourtant de nourrir la créativité de Man Ray. Quelques années avant sa mort, en 1976, il édite plusieurs séries d'estampes issues des dessins d'elle qu'il a exhumés. Cela n'empêche pas Adrienne Fidelin de tomber dans l'oubli. Coupée du monde, la muse des surréalistes mourra dans l'anonymat.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Adrienne Fidelin, nous sommes avec l'écrivaine Gisèle Pinault qui lui consacre justement une riche biographie. Bonjour Gisèle.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. On parle d'Adi avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1 évidemment.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre et nos amusantes muses de l'histoire continuent. On parle d'Adrienne Fidelin, la muse de Man Ray, avec notre invitée, l'écrivaine Gisèle Pinault, depuis la Guadeloupe.
Depuis Marie-Galante.
Marie-Galante.
Oui.
Ah, quelle chance.
Oh là 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 là.
Mais envoyez-nous du soleil, vous nous faites rêver
on
là.
On peut vous rejoindre.
On
oui.
Aimerait bien.
Ah non, on peut pas, on peut pas.
Ah oui, on peut pas,
pas
voyager. On peut plus voyager, c'est vrai. Gisèle Pinault veut publier Adi Soleil Noir aux éditions Philippe Ray. On découvre Adrienne Fidelin seins nus sur la couverture. Adi a été oubliée en métropole, mais en Guadeloupe, d'où elle est originaire, est-ce qu'elle reste célèbre ?
Pas du tout, c'est une muse oubliée aussi sur son île natale. Adrienne est quelqu'un qui s'est fait très très discrète quand elle s'est séparée de Man Ray, quand Man Ray est parti vivre aux États-Unis.
Vous-même, Gisèle, vous êtes née à Paris, mais vos parents sont originaires de Guadeloupe. Ce sont vos origines qui vous ont donné envie de vous pencher sur l'histoire d'Adrienne Fidelin ?
Oui, tout à fait. Je suis une grande fan de Man Ray et j'ai découvert dans ses mémoires, dans son autoportrait, le personnage d'Adrienne Fidelin, cette Guadeloupéenne qui était une danseuse, une mulâtresse et qui vivait avec Man Ray dans l'entre-deux-guerres. De 36 à 40, elle a vécu avec Man Ray. J'ai voulu aller un peu plus loin et j'ai fait d'énormes recherches. D'abord sur Internet, et puis dans son arbre généalogique. Et j'ai découvert ce destin fantastique, fabuleux. Alors, c'est la tragédie de cette histoire qui m'a plu. C'est le commencement, c'est le destin de cette femme. C'est cette rencontre fulgurante au bal Blomet. Parce qu'à l'époque, Paris dansait beaucoup la biguine. Les Antilles étaient à la mode. Il y avait énormément de Guadeloupéens qui sont arrivés après le cyclone de 28, puisque l'île était dévastée. Ils sont arrivés, ils ont emmené avec eux la biguine. Tout Paris allait s'encanailler au 33 rue Blomet. Il y avait des cars entiers d'étrangers qui venaient danser là. Tous les gens se mélangeaient, les aristocrates, les bourgeois, les ouvriers, les ouvriers antillais, les noirs et les blancs, en fait, se mélangeaient et dansaient.
Gisèle Pinault, on a écouté le récit de Stéphane, est-ce qu'on peut dire qu'elle a vécu sa vie ou elle l'a subi quelque part ? Est-ce que le fait d'être une muse, et une muse qui visiblement couchait avec les artistes dont elle était la muse, elle a aimé follement cette vie ou quelque part elle l'a en partie subi ?
Je pense qu'Adi a aimé cette vie. Vous titrez votre émission « Amusante muse », mais je crois qu'Adi voulait s'amuser, elle voulait se distraire. Elle était beaucoup plus amusée par Man Ray et toute sa clique, parce que c'était des grands enfants. Elle les regardait, c'était des gens qui avaient plus de 20 ans de plus qu'elle, 20, 25 ans de plus qu'elle, et qui se déguisaient, qui se grimaient, qui sautaient, qui allaient dans les foires, qui allaient un peu partout. Et Adi était follement amoureuse de Man Ray.
Mais elle l'a suivi sans se poser trop de questions, au fond. Sans doute par amour, plus que par intérêt pour les surréalistes, non ?
Adi n'était pas intéressée. Elle n'a pas été intéressée comme Lee Miller, qui, elle, voulait être photographe et qui a été l'amante et la muse et l'assistante de Man Ray. Elle n'a pas été intéressée comme Kiki de Montparnasse, qui était tellement fière de se balader avec son Américain. Adi était amoureuse de Man, comme Man était amoureux d'Adi. Il l'écrit dans ses mémoires. Nous étions amoureux l'un de l'autre. À plusieurs reprises, dans Autoportrait, Man Ray écrit « Ma femme est avec moi ». Je vais partir avec elle en Amérique. Il écrit, c'est sa femme, c'est sa compagne, c'est sa muse. Elle lui fait la cuisine aussi. C'est une femme ordinaire. Elle était un petit peu, je pense, comme Nuche aux côtés de Paul Éluard. Bien sûr, ils couchaient ensemble. C'était un programme de vie, joie, jouer, jouir. C'était un petit peu le synonyme de voilà, Man Ray, c'était ça. Les 3J. Mais c'est un programme qui est quand même assez fabuleux, quoi. Aujourd'hui, quand on voit de quelle manière nous sommes restreints dans nos libertés, joie, jouer, jouir, oui, on adhère. On adhère. Et Adi a a suivi, elle a accepté. Regardez ces photos. Sur Internet, il y a des centaines de photos d'Adrienne Fidelin.
Un mot quand même, parce que c'est passionnant, la vie d'Adrienne Fidelin. C'est que, au fond, votre livre est un tableau du racisme ambiant des années 30. Hein. Elle semblait, elle, vouloir dépasser ce racisme en affirmant « Ma peau noire n'est pas une prison. Je ne me sens inférieure à personne. » Elle affichait, d'ailleurs, il y a un côté militant, peut-être, dans l'affirmation de son identité.
Tout à fait. Parce que Adi était quand même assez critiquée par les Antillais, les jeunes Antillais qu'elle fréquentait, ses cousins. On lui disait qu'elle était une poupée noire. Les sœurs Nardal, les intellectuels qui fréquentaient Césaire, Senghor, qui fréquentaient les Américains qui débarquaient à Paris, et tout ce mouvement de la négritude qui était en train de se créer, eh bien, ils disaient « Oui, vous êtes des poupées exotiques, vous dansez pour les Blancs. » Et elle se disait « Non, moi, je suis telle que je suis, j'ai envie de vivre. J'ai envie de survivre. » Et danser, chanter, s'amuser, c'était une forme de résistance, parce que la guerre arrivait, parce que l'horreur était là, aux portes de Paris, parce qu'on sentait bien que le nazisme, le fascisme, l'antisémitisme, le racisme étaient là partout. C'était des ombres terribles tout autour de Paris. Et alors, que faire? Il fallait vivre au présent. Man Ray lui-même paraissait désinvolte, mais il était lucide. Il a voulu partir avec Adi. Il avait préparé des laissez-passer pour elle, pour l'emmener avec lui aux États-Unis, mais elle l'a refusé en disant qu'elle va s'occuper de sa famille. À son retour, en 1951, Man Ray revoit Adi et surtout lui est tellement reconnaissant parce qu'elle a conservé tous ses trésors. Elle a gardé ça dans un... C'était un fouillis, bien sûr, dans un grenier, mais les photos, tout ce qui coûte très très cher aujourd'hui.
Aujourd'hui, bien sûr. Elle a protégé le ben c'est formidable. En tout cas, vous avez c'est formidable de remettre en lumière et bien ce soleil noir Adi grâce à votre livre, une très belle biographie que vous consacrez à Adrienne Fidelin qui vient juste de paraître aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup Gisèle Pinault d'avoir été avec nous en direct depuis Marie Galante.
Merci beaucoup, merci.
Ici Europe 1.
16h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on évoque les amusantes muses de l'histoire. Après Simonetta Vespucci, la muse italienne de Botticelli, après Adi, la muse créole de Man Ray, Mathieu, vous nous brossez le portrait de celle qui fut la muse absolue de Serge Gainsbourg et qui nous vient de ce pays que j'aime tant, l'Angleterre, Jane Birkin.
Disons-le tout net, Stéphane, il y a eu des ratés dans ce que l'Angleterre nous a apporté. Le fish and chips, la jelly, la sauce à la menthe, les chips au vinaigre, jusqu'à ce premier ministre à la coiffure invraisemblable et jaune qui n'est pas sans évoquer une gerbe de blé sur laquelle aurait préalablement pissé un corgi. Mais là où l'Angleterre nous a pas déçus, c'est quand elle nous a donné Jane Birkin. Oui, au début, Serge Gainsbourg s'est dit « Je vais pas lui donner des paroles trop compliquées, elle maîtrise pas encore bien le français. » En parlant de pas trop bien maîtriser le français, je sais que vous êtes nombreux à attendre de moi une imitation de Jane Birkin cet après-midi. J'aurais adoré répondre positivement à cette attente légitime de votre part. Hélas, après pourtant toute une nuit à tenter de choper cet indéfinissable accent qui fait tout le charme de Jane, ça donne pas grand-chose à savoir « Je le suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de l'artiste incontournable qui a fait du joli musique et du joli cinéma pour notre paysage artistique français. » Bref. Pourquoi chez moi l'accent londonien est-il si proche de l'accent créole? Il faut se rendre à l'évidence, cette chronique sera plus agréable à suivre sans imitation pourrie. Jane Birkin mérite de toute façon mieux que ça, car c'est non seulement la muse de Gainsbourg, mais la muse d'une époque. La France de Gaulle qui découvre, émerveillée, le swinging London des 60s. Qu'est-ce qui vient de naître 10 ans plus tôt?
Brigitte Macron.
Non, c'était pas le rock anglais. Un rock qui va insuffler un esprit frondeur à toute une génération. Jane voit le jour le 14 décembre 46 dans le quartier londonien de Marylebone, quartier chic et commerçant où Stéphane aime à flâner pour acheter des scones, de la marmelade d'orange amère ou encore faire quelques chabites farceurs aux bobbies qui lui donnent du « Oh, Mr. Byrne, you're so funny ». Ne jamais faire ça avec un CRS. Le père de Jane Birkin est David Birkin, commandant dans la Royal Navy. Sa mère, c'est l'actrice Jodie Campbell, et justement, Jane est d'abord actrice, après des débuts à seulement 18 ans dans un film intitulé « Le Knack » ou « Comment la voir », qui n'est pas une puberta, mais une sorte de teen movie marrant emblématique du Swinging London, elle enchaîne avec « Blow Up » d'Antonioni, Palme d'Or, comme vous le savez, 67 à Cannes. Dans la foulée, Jane se marie avec le compositeur John Barry, à qui l'on doit le générique, non pas d'Historiquement Vôtre, mais de...
amicalement vôtre.
Bien joué Stéphane, il y en a au moins un qui suit. Deux ans plus tard, cependant, Jane et John divorcent. Ce qui ne m'arrange pas mon histoire, car Jeanne et John, ça sonnait moins bien que Jeanne et Serge. Sauf que ce n'est pas l'occasion d'un match de volley-ball que Jeanne va croiser Serge, mais sur un tournage, alors qu'elle est venue tenter sa chance en France, elle se retrouve à donner la réplique à un monsieur un peu bizarre, pas très sympa. Le film s'appelle Slogan, de Pierre Grimblat. Jane est alors cette baby-doll androgyne si emblématique de tout ce qui nous fait rêver outre-Manche, un summum de colitude, une sorte d'anti-Sheila, si vous voulez. Et en plus, elle, c'est vraiment une femme. Non, je déconne. Point de coup de foudre, en tout cas, entre Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Il a 40 ans, et visiblement, le français approximatif, tartiné d'accent british de Jane, l'agace un peu. Il la traite de boudin anglais. Elle a 22 ans et elle le trouve horrible. Elle ne sait pas qui il est, il pense qu'il s'appelle Serge Bourguignon. Je l'ai trouvé compliqué, arrogant. Pendant le tournage, il n'avait aucune gentillesse envers moi, il me mettait très mal à l'aise, raconte Jane. Flairant cette hostilité, le réalisateur organise alors un dîner pour tenter de les réconcilier, de faire en sorte en tout cas qu'ils apprennent à se connaître. Après le repas, elle et Serge se mettent à danser. Et alors qu'il lui marche sur les orteils, elle se rend compte que cet homme qu'elle trouvait arrogant n'est en fait qu'un grand timide. C'est le début d'une histoire d'amour houleuse, certes, mais ô combien palpitante. Ça commence assez fort. Premier rendez-vous, d'après vous, un petit ciné, un petit hippo, la formule hippo malin à 14,90, on l'a tous fait. Non, Serge l'emmène dans un bar à travestis. Puis dans un club de blues. Puis dans une discothèque russe. Tout ça dans la même soirée. Et on finit à l'hôtel Hilton où le réceptionniste demande « Votre chambre habituelle, monsieur Gainsbourg ?» Très vite, le couple devient iconique. C'est la rencontre improbable de la beauté et du génie, dira Étienne Dao. En 69, Birkin et Gainsbourg enregistrent la nouvelle version de « Je t'aime, moi non plus ». Sur la première version qui n'est pas sortie, c'est Bardot qui chante et Jeanne est jalouse. D'autant plus que d'autres rivales rôdent alors autour de Serge, comme Mireille Darc, par exemple. Alors, malgré le caractère olé olé des paroles, Jane n'hésite pas.
Je vais et je viens.
Où allez-vous, Stéphane ?
Entre
les reins de qui, Stéphane ? Bah, cette histoire d'aller et venir entre les reins de sa partenaire choque quelque peu. Ouais, la chanson est même interdite en Espagne et en Italie. Et au Luxembourg, les paroles sont si dérangeantes pour la bonne bourgeoisie que les jeunes eux-mêmes, ne pouvant pas croire ce qu'ils entendent, s'imaginent qu'il est question d'aller et venir entre le Rhin, le fleuve. Je fais et je viens entre le Rhin et je me retiens parce que tomber à l'eau, surtout dans le Rhin, elle est fraîche, c'est dangereux.
Pas si bête, oui. Non plus.
J'aime bien vous imaginer comme ça dans votre jeunesse, Stéphane. Stéphane, lui, n'est pas dupe. Il avait bien compris le véritable sens diabolique des paroles. Il avait préféré se réfugier
dans la prière et la chasteté.
Jane est tout ce que cherchait Gainsbourg. Elle l'inspire, elle a cette fraîcheur et cette fragilité qu'il recherchait. Il devient son Pygmalion. Je tombais bien, j'avais 20 ans de moins que lui, je l'amusais, il pouvait jouer à la poupée avec moi, m'habiller selon ses fantasmes. C'est Jane qui dit ça, pas moi, hein. Je veux pas d'ennuis avec Caroline Forest. 1968, ça y est, c'est la révolution. Même Stéphane Bern sort du séminaire en s'exclamant.
Ça va lécher dans tous les sens.
Cette fois, c'est la bonne, comme le variant anglais Si Sex and Son est encore plus contagieux que les tubes précédents. Jane et Serge sont au sommet, alors à quoi ça ressemblait la vie d'une muse et de son Pygmalion dans les années 70 ? Eh bien, à exactement l'inverse de la vie de merde qu'on a en 2021 à cause de la Covid. Pour Jane et Serge, c'est tous les jours réveil à 15h30, presque pile pour aller récupérer Charlotte et Kate à l'école et les emmener prendre l'air au parc, puis retour maison pour la faire dîner, la babysitter s'occupe de l'eau du bain, on couche les enfants, papa et maman font un petit bisou, puis sortent se la coller toute la nuit. De retour à l'aube, ils attendent le réveil des petites à 7h30, puis se couchent. Leurs sorties nocturnes sont souvent très arrosées, parfois elles dérapent. Un soir, chez Castel, rue Princesse, Serge vide le contenu du célèbre panier en osier de Jane sur le sol. Furieuse, elle réussit à trouver une part de tarte au citron crémeuse et la lui jette au visage. Premier attentat pâtissier de l'histoire. Serge quitte le club, suivi de près par Jane qui le dépasse, se dirige droit vers la scène, s'assure qu'il regarde et saute. Un sauvetage plus tard, ils regagnent leur chez-eux de rue de Verneuil, bras dessus. C'est ce qui s'appelle ne pas tomber dans le quotidien. Hélas, on le sait, Gainsbourg ne tourne pas à la Kézac. L'alcool l'use et n'amuse plus sa muse.
C'est beau, non ?
Oui, c'est une allitération en use. Les années 80 arrivent, la séparation aussi, car la routine du quotidien, Serge et Jeanne finiront par y succomber aussi à leur manière. Vers la fin de notre vie commune, je me souviens juste que tout est devenu si monotone, dit Jane. Nous n'allions plus dans 4 ou 5 boîtes de nuit, seulement à l'Élysée-Matignon, et uniquement jusqu'à 4h du matin, parce que tout le monde donnait à boire à Serge et qu'il fallait que je m'occupe de le faire rentrer à la maison. C'était juste systématique et ennuyeux. À la mi-septembre 80, Jeanne quitte Serge. Après 12 ans de vie commune, elle se tire avec Kate et Charlotte rejoindre le cinéaste Jacques Doyon. Et si le sentiment amoureux n'est plus, un lien particulier perdure entre elle et Serge. Elle a occupé la place rêvée de la muse, mais la vraie muse, pas la faire valoir, pas celle qui amuse la galerie. Et même après leur séparation, elle continuera de l'inspirer. Et en retour, évidemment, elle laisse son empreinte. Elle a à sa manière façonné le style Gainsbourg également. Tout est de moi, il m'écoutait beaucoup. La barbe de 8 jours, par exemple, c'est elle. On avait envie de s'occuper des hommes qui ont de la barbe. On a l'impression qu'ils n'ont pas su où dormir la nuit passée. Le côté bling de Gainsbourg, c'est elle aussi. Je lui ai offert des bracelets de vieille comtesse qu'il portait au poignet et un diams au creux du cou. Alors attention, dites avec l'accent birkin, cette dernière phrase peut entraîner une véritable confusion quant à la position géographique du diamant. Et les fameuses répétos, Stéphane. Encore elle, encore Jane. Et enfin, saviez-vous que Serge Gainsbourg ne portait pas de slip?
Ah bon?
Je trouve beaucoup plus érotique un homme quand il est nu sous son jean. Là encore, j'ai passé le message. Message reçu 5 sur 5. Jane, merci pour tout, surtout pour cet ultime conseil que nous allons nous empresser d'appliquer. Non, mais attendons quand même la coupure pub, un peu de classe, que diable. Jane Birkin, c'est quand même un emblème de l'élégance. Ouais. Elle a un sac Hermès à son nom. Ouais. Alors pour conclure, tâchons de rester chic. Saluons plutôt le talent de celle qui continue à en avoir.
Elle se fabriquait des histoires.
Et qui restera à jamais le symbole de cette époque bénie, sexy, ou comme disait le poète lusitanien...
Les gens qui avaient des petits seins, ils avaient des petits seins, et puis voilà.
Et voilà, ne posez pas plus de questions, c'est une belle conclusion.
Merci Mathieu, David. C'est 99% vrai.
Alors moi, j'ai jamais eu la chance de la croiser dans nos émissions. Ah oui. Vous, Stéphane, elle est sympa?
Ouais, elle est un amour, elle est drôle. Elle tutoie tout de suite, elle a toujours des problèmes entre son sac, parce qu'elle a son sac, il y a tellement de choses, ça déborde. Il y a le chien aussi qui fait n'importe quoi. Non,
c'est un personnage. Quoi.
C'est un vrai personnage. Et elle est très attachante, évidemment.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos amusantes muses, Mathieu, pour retrouver nos muses à nous, non moins amusantes.
Elles ont du poil aux pattes, nos muses. Oui. Stéphane, deux muses un peu moins délicates peut-être que les précédentes, le genre de muse qui peut s'exclamer à tout moment.
Moi, je mangerais bien un ramen.
Alors, Olivier, aujourd'hui, pas de ramen. Vous allez concocter des petits blinis.
Oui, après, charge à vous de les garnir, cher ami. Vous mettrez dessus ce que vous voulez, mais moi, je m'occupe du blini.
Et le blini est nordique. Ça, c'est pas une légende.
Il est plus à l'est.
Connor. Plus à l'est qu'au nord. D'accord. Mm-hmm. Vous nous direz tout dans un instant. Le mot de la fin, c'est évidemment Stéphane Bern, oui, qui l'aura pour nous expliquer l'origine d'une expression aujourd'hui.
Oh, ça fait belle lurette que je vous dis que je vais faire le mot de la fin.
Ça fait belle lurette. D'où ça vient, vous le saurez. Mais d'abord, vous saurez d'où vient le téléphone portable grâce à David Castello-Lopez qui est remonté pour nous aux origines du téléphone portatif.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, vous le savez, chaque jour on remonte aux origines des inventions de notre quotidien dans cette dernière demi-heure avec vous, David Castello-Lopez. Aujourd'hui, pour le coup, autant l'amiante, c'était pas concernant, on n'utilise pas l'amiante au quotidien, heureusement, oui. Mais là, le téléphone portable,
oui.
C'est vrai qu'on l'utilise tous et on aimerait bien savoir d'où ça vient.
Moi, j'aimerais commencer par décrire une scène du passé, une scène que les moins de 30 ans peuvent pas avoir connue, une scène pourtant qui était encore monnaie courante jusqu'à la fin des années 90. Alors d'abord, contexte, vous avez une petite amie dont vous êtes amoureux, et cette petite amie est en voyage dans un endroit lointain. Et quelquefois, elle vous appelle depuis une cabine téléphonique sur votre téléphone fixe, puisque c'est le seul qui existe, et le moment où elle vous appelle, si elle vous appelle, c'est le meilleur moment de votre journée.
Oh, vous êtes tellement romantique.
Alors un jour, vous sortez de chez vous pour aller acheter du pain, et puis vous revenez. Vous êtes dans l'ascenseur qui monte jusqu'à votre appartement. Et là, vous entendez à travers la cage d'escalier la sonnerie lointaine de votre téléphone fixe derrière, donc, la porte de votre appartement. Ça sonne une fois, l'ascenseur est toujours pas arrivé. Vous savez que c'est votre petite amie. Deux fois, vous arrivez à votre étage, tout fébrile. Vous sortez la clé pour ouvrir la porte, mais elle vous échappe des mains. Troisième sonnerie, vous ramassez la clé. Quatrième, vous ouvrez la porte. Ça sonne une cinquième fois. Vous courez dans l'appartement, vous vous jetez sur le téléphone. Allô? Et non, c'est trop tard. Il n'y a plus personne à l'autre bout du fil.
Vous êtes un trésor pour les psys, vous.
Vous ne savez pas quand est-ce qu'elle va rappeler, quand est-ce qu'elle rappellera, et vous souffrez. Et cette souffrance-là, aujourd'hui, elle n'existe pratiquement plus grâce au téléphone portable, puisque quand vous allez acheter du pain, eh bien, vous prenez votre téléphone avec vous et vous ne ratez plus l'appel. Mais alors, depuis quand ça existe, cet objet qui a remisé la scène que je viens de décrire dans les annales de l'histoire, à côté des relais de poste et du scorbut? Eh bien, d'ailleurs, je vous le demande, hein, à votre avis, de quand date le premier téléphone portable?
Alors, 95.
Mais un tout petit peu avant. Moi, je me souviens des Radiocom 2000, ces trucs qu'on entendait.
3 avril 1973.
Oh, quelle ordure! Il a encore regardé son téléphone. Interdiction! Stéphane, sous la table, on a dit plus de téléphone sous la table. Oui, il est sur la table.
Ça, à quoi ça sert les portables? Vous avez inventé le portable, il faut bien que ça serve.
On parle tout à fait, excellente réponse.
Mais vous nous piégez, je pensais que vous nous demandiez quand le téléphone portable était devenu un produit de consommation presque courante, évidemment. Oui,
le premier appel du monde avec un téléphone portable a été passé le 3 avril 1973. C'est fou cette connaissance si précise de l'histoire chez Stéphane Bern. Le premier appel, c'était par un ingénieur américain qui s'appelle Martin Cooper. Martin, il travaillait chez Motorola. livre-là.
Et vous l'avez rencontré?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais il y avait à cette époque-là, depuis quelques années, une course parmi les constructeurs de téléphones à qui sortirait le premier téléphone portable. Et chez Motorola, c'est Martine qui s'en occupait. Martin, on va plutôt dire. Et il a réussi, hein, notamment parce qu'à cette époque-là, on avait développé des éléments miniaturisés qui ont permis de faire la même chose en plus petit. Et donc, logiquement, il avait son prototype entre les mains et c'est lui qui a passé le premier appel. Est-ce que vous pouvez deviner qui il a appelé?
Sa mère.
Non.
Ah, son boss.
Non, son homologue dans l'entreprise concurrente qui lui aussi essayait de fabriquer un téléphone portable.
Pour le narguer.
Voilà, et selon les témoins, la teneur de ce premier appel par téléphone portable, c'était en gros « Chez, c'est moi qui ai gagné
voilà. ». Alors, traduire pour Stéphane, hein, les expressions jeunes.
Voilà,
ce que ça veut dire « Chez ».
Chez, c'est t'es boulé. Voilà,
oui,
c'est ça.
Boulé, boulé.
Alors, bien sûr, c'était un prototype. Il a fallu attendre 1983, donc c'est quand même 12 ans avant ce que vous disiez, Mathieu. 1983, 10 ans plus tard, pour qu'il y ait un modèle qui soit disponible en magasin, pour le grand public. Le Motorola DynaTAC 8000X.
C'était énorme.
Qui pesait plus d'un kilo, mais enfin, quand même, ça tenait dans la main. Hein, c'était pas avec une valise. Oui. Il avait 30 minutes d'autonomie. Oui. Il fallait le recharger pendant 10 heures ensuite, c'était quand même un petit peu en besoin. Et par ailleurs, il coûtait l'équivalent de 7 500 €.
Ah oui, donc c'était destiné à des voilà. professionnels.
Alors certes, le prix des téléphones, il a baissé progressivement, mais pendant presque 20 ans, le téléphone portable, c'était un truc de riche. Mmh. En 1994, par exemple, 11 ans après le premier téléphone portable, il n'y avait que 0,4% des Français qui en avaient un. Et il a fallu attendre 2001 pour que la moitié des Français en possèdent un. Aujourd'hui, il y a plus de 100%, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a plus de
téléphones. Je vois, il y a des gens autour de nous qui ont deux téléphones.
Plus de téléphones portables que de gens. Moi, le premier que j'ai eu, c'était en décembre 1999. Mais ça n'a pas tout à fait réglé le problème des appels au téléphone avec ma petite amie, puisque elle n'avait pas de portable. Vous savez, elle faisait partie de ces gens qui trouvaient que c'était les téléphones portables, c'était des gadgets pour les cons.
Moi aussi, voilà. Et c'était ridicule. Moi, j'ai toujours un temps de retard, et à chaque fois, je pense que je suis cool en n'acceptant pas une évolution technologique, et en fait, 2 ans plus tard, j'ai juste un temps de retard. Quoi.
C'était quand votre premier téléphone portable, à vous?
Vous mettez le 1995.
Ouais.
Pionnier. Non, moi, comme vous, dans les années 98.
Ah, si, 97, puisque pour la mort de Diana,
mon téléphone.
C'est un peu votre naissance du Christ à vous, quoi.
C'est avant Diana, après Diana.
Là, tout a changé. Là, votre salaire a payé un zéro derrière. Mais c'est une époque. Hein.
Oui, vous pensez qu'il y a d'argent. Moi, je pense à mon métier.
Bien sûr, c'est votre métier, oui. Mais moi, vous m'avez mis le doute, mais maintenant, je me souviens qu'en 98, j'avais toujours pas de portable, parce que c'est la Coupe du Monde. On a gagné la Coupe du Monde. Enfin, j'aime bien ce on inclusif.
Oui, vous n'avez pas fait grand chose.
Une cabine téléphonique, j'étais en Angleterre, donc non, je n'avais pas de portable, donc peut-être 99 ou 2000, oui.
Bravo.
Bah merci David, c'était passionnant.
Très nostalgique cette
Les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Ce qui ne se démodera jamais en revanche, c'est un bon blini.
Enfin, il faut mettre quelque chose dessus parce que le blini sec, si vous voulez, c'est pas...
Tarama Leader Price pour David et moi, Caviar Beluga pour vous Stéphane, chacun selon ses goûts. D'où vient le blini, nous le saurons dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, c'est aussi l'histoire de nos papilles. Grâce à Olivier Pouls, chaque jour l'origine d'une recette, d'un plat, aujourd'hui le blini.
Oui, et le blini ou les blini, parce que c'est un mot qui ne prend pas de S au pluriel, puisque blini est déjà
un pluriel
comme spaghetti, par exemple, avec les pâtes italiennes.
Ce que disait Stéphane Teller n'est pas si bête que ça, il doit y avoir le singulier de blini.
Oui, c'est blin.
Bien joué.
Tout simplement.
Et ça vient
de l'ancien slave mlin, qui veut dire moudre. Et moudre, évidemment, la farine qu'on utilise pour confectionner ces petites galettes, ces petites crêpes, qui sont évidemment très tendance, hein, pas un apéro ou peu d'apéro,
c'est pratique, c'est vite fait.
Les gens n'ont plus de dents maintenant. Parce que c'est vrai. Vous savez, ces sandwichs au poulet, avant on avait une bonne baguette, etc. Et maintenant c'est des pains tout mous comme ça.
Parce qu'on a envie, on a besoin de douceur.
On va vers un monde mou.
Mais oui, on va vers un monde mou, on a besoin de tendresse.
Et battons-nous contre ce monde mou. Retrouvons le goût du croustillant, mais vous avez raison, il faut du dur. Mais c'est vrai qu'en cuisine, là, je fais une petite parenthèse, mais la texture et le croustillant est quelque chose de très jouissif en cuisine. Moi, j'adore le croustillant.
Le bruit, rien que le bruit. Ça craque.
Ce débat nous emmène très loin. Moi, j'aimerais savoir d'où vient le blini.
Eh bien, il vient
donc
de Russie. Ah. Alors, les Russes célèbrent au mois de mars la Maslenitsa. Et c'est une fête, et c'est la fête qui célèbre la fin de l'hiver, l'arrivée du printemps et des beaux jours, mais surtout c'est la fête des crêpes. Et durant cette fête qui dure une semaine, ils confectionnent énormément de leurs crêpes qu'ils appellent les blinis. Et en réalité, c'est un cousin de notre crêpe à nous. Si ce n'est qu'elle se présente chez nous un tout petit peu différemment, c'est une crêpe qui est légèrement plus épaisse.
C'est un pancake en fait.
C'est entre la crêpe et le pancake, mais traditionnellement, le vrai blini russe, il est grand. C'est pas nous on les a miniaturisés pour des raisons, je pense, commerciales d'apéritif, mais l'original, il est très grand. Il fait une quarantaine de centimètres de diamètre et surtout, il est cuit au four, ce qui n'est pas du tout la technique que nous utilisons pour faire.
Donc ça n'a rien à voir. C'est un type de poisson. Ce qu'on appelle blini, ça n'est pas du tout la même chose.
Mais non, c'est pas exactement ça. Alors bien sûr que eux aussi se sont mis à ces blini plus contemporains. Alors qu'ils garnissent évidemment du temps de la splendeur russe et où les mers regorgeaient encore des sturgeons, on les garnissait de caviar. Évidemment, c'est devenu moins courant, moins commun, mais ça peut aussi se garnir de pommes de terre et ils les garnissent aussi de toute une série de préparations sucrées. Mais surtout le blini, plutôt que de l'acheter dans des sachets en plastique et de se contenter de le réchauffer soit au micro-ondes, soit au four.
On va le faire nous-mêmes.
Mais faites-le vous-même. Ouais. C'est enfantin à réaliser.
Mais il faut des petites... alors, je vois, ils font ça, ils ont des petites poils
qui ont une circonférence d'environ 10-12 cm. Et donc, ça permet de faire des petits blinis de cette taille-là,
sans qu'ils s'étalent trop.
Alors, la recette, c'est... Ouais. En plus, il y a un moyen mnémotechnique très facile pour la retenir. Vous allez prendre un pot de yaourt, un yaourt classique, normal. Vous allez dedans, vous allez le vider, vous allez le remplir de farine, donc un pot de farine, vous rajoutez un œuf, un demi-sachet de levure, une pincée de sel, vous mélangez, vous laissez poser, vous avez la pâte.
Mais le yaourt, on l'a acheté à la poubelle ou on l'a utilisé?
Ah non, on l'a utilisé, il sert de liant.
Il sert dedans.
Là, je vous donne une recette que j'ai testée et qui marche extrêmement bien. Alors, il y a plein d'autres recettes, il y en a qui le font avec du lait pour avoir un truc, un blini un petit peu plus liquide. Moi, je trouve que c'est assez sympa quand il se tient bien, quand il a de la texture et aussi un petit peu de hauteur. Donc avec cette recette, franchement, c'est inratable.
On peut pas le rater.
Et non. Et donc une fois que vous avez cet appareil, vous laissez reposer pendant une heure de manière à ce que la levure travaille un petit peu. Votre fameuse poêle de 10 cm de diamètre avec un petit peu de matière grasse, on la chauffe et tac. On cuit les blinis les uns derrière les autres. Et après, pour ce qui est de les garnir, je viendrai chez vous les manger. Et en fonction de...
Vous apporterez voilà, en fonction de chacun le caviar.
Bien sûr, mais passez chez Petrosian quand même avant de venir. ça sera sympathique.
En tout cas, on va se régaler. Merci Olivier Pouls. Toutes les recettes sur europe1.fr.
Il y a belle lurette que j'attends votre chronique, Stéphane, ainsi que tous nos auditeurs. L'origine d'une expression dans le mot de la fin. Aujourd'hui, justement, l'expression « belle lurette ».
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Quand vient la fin de cette émission, c'est l'heure du mot de la fin. Stéphane, chaque jour, l'histoire d'un mot ou d'une expression. Aujourd'hui, c'est une expression que vous décortiquez pour nous.
Oui, qui n'a pas entendu un jour dans la bouche d'un aïeul comme moi l'expression « il y a belle lurette ». Voilà. Il faut bien l'avouer, cette formule n'est pas encore revenue à la mode chez nos amis des Jones, mais qui sait, on a vu souvent rejaillir le feu d'un volcan qu'on croyait trop vieux.
C'est beau. Alors, « il y a belle lurette », c'est... Il y a bien longtemps, par exemple, il y a belle lurette qu'on n'utilise plus l'expression belle lurette.
Bravo, Mathieu. Déjà, commençons par le commencement, qui est donc cette lurette. Qu'est-ce qu'une lurette? Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'en sait strictement rien.
Non, j'aime pas quand on sait pas.
Non, mais lurette n'existe que dans l'expression il y a belle lurette. Fin du 19e siècle, dans la région bourguignonne, on disait il y a belle eurette. Eurette était une petite heure. Comme une camionnette est un petit camion, alors qu'une andouillette n'est pas forcément petite andouille. La première fois qu'on peut lire cette formule, c'est dans la Revue des Deux Mondes, en 1875, sous la plume du poète André Theuriet. Il écrit « Ce n'est pas une grive, les sons sont trop énergiques. Quant au rossignol, il y a belle heurette qu'il ne chante plus. » Belle heurette devient donc avec le temps belle lurette. Notez pour être complet sur l'expression que la dernière œuvre de Jacques Offenbach est un opéra comique inachevé en trois actes intitulé Belle lurette et qu'en Roumanie on préfère dire depuis que ma grand-mère était jeune fille. Effectivement, j'ai vérifié, quand ma grand-mère était jeune fille, Eh ben, ça fait bien une belle durée.
Maintenant, vous allez nous le dire en roumain, parce que vous donnez la traduction à chaque fois.
Comment?
En roumain, ça doit avoir une sacrée saveur. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis, à l'honneur aujourd'hui. Trois muses amusantes. Qui, Stéphane, de Simonetta Vespucci, Adrienne Fidelin ou Jeanne Birkin, vous a le plus étonné, finalement?
Oh, écoutez, j'ai aimé les trois. Là, franchement, j'ai trouvé que vraiment le niveau de l'émission était
très bon.
On a ri,
on a pleuré.
Moi, le destin de cette pauvre Adrienne Fidelin. Enfin, voilà.
Mais visiblement, David Kessel-Lopez n'a pas beaucoup pleuré. Visiblement, il soupire bêtement. Visiblement, il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur, visiblement, j'ai l'impression.
Vous en doutiez?
Oui, non, c'est vrai. Demain, l'émission aura clairement une tonalité plus tragique, Stéphane.
Oui, Mathieu, demain, nos personnages ont été fauchés en plein vol. On réunit l'aviateur qui n'aura jamais fini de traverser l'Atlantique, Charles Ningesser. Le boxeur Marcel Cerdan, mort lui aussi dans un accident d'avion.
Oui, et Ozone, vous savez ce groupe moldave qui a sévi il y a quelques années avec une chanson qui n'a rien à envier au talent de Serge Gainsbourg. Ils étaient sur l'aile d'un avion. Et oui, vous vous souvenez pas du clip, Stéphane?
Ah oui.
Et c'était boum, le trou, fini Ozone, fauché en plein succès, je vous raconterai.
Oui, j'ai hâte. Rien que pour cette histoire, j'ai hâte.
Vous pouvez.
À demain alors.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.